Après Andrew Bird, nous voici en compagnie de Philippe Saunier-Borel, co-directeur du Centre National des Arts de la Rue. Bonjour.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir ici.
Nous sommes enchantés et en fait, moi ce qui m'intéresse avec Pronomade, c'est bien sûr la programmation, de la découvrir et de sans doute aller voir des spectacles, mais c'est aussi la structure qui a quand même un projet culturel assez original.
Je sais pas, en tout cas, je sais pas s'il est original, en tout cas, il y a la nécessité, là où je vis. J'ai toujours vécu sur la partie rurale de la Haute-Garonne. C'est-à-dire, j'ai toujours, de fait, pensé qu'au-delà de la métropole, la vie continuait. Contrairement à la pensée politique actuelle, où il y a une espèce de rétrécissement, une reconcentration sur les métropoles. Il se trouve que sur le territoire où j'habite, je suis pas tout seul, il y en a encore 79 990, on est 80 000. Et je me suis toujours dit que ces personnes qui ont fait le choix de vivre là méritaient la même attention, le même soin, le même accompagnement que les gens sur les métropoles, les mêmes services publics, en termes de politique sanitaire, de politique sociale, de politique judiciaire et de politique culturelle, étonnamment. Et que nos territoires ruraux n'aient pas que des beaux paysages que les métropolitains vont arpenter le samedi, le dimanche, mais c'est un lieu de vie. Et donc, j'ai toujours pensé qu'un projet culturel était également nécessaire sur ce territoire rural.
Donc, ce projet culturel, il s'articule autour de diverses actions, à la fois des actions auprès des compagnies, un accompagnement auprès de la création contemporaine.
Oui, c'est-à-dire que, alors, il se trouve que cette histoire, enfin, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le résultat de 25 années de travail sur ce territoire. Et il se trouve que l'association que je co-dirige avec Marion Vian a un label du ministère de la Culture, que tous les partenaires publics accompagnent le projet de Pronomade, et c'est bien. Et on est un centre national. Il y en a aujourd'hui 13 en France. Le dernier est apparu sur la métropole toulousaine, c'est l'usine à Tournefeuille. Et on est 13 lieux en France et le seul en territoire rural, c'est Pronomade. Et comme tous les centres nationaux, on a deux grandes missions. Alors, on en sait toujours une avant l'autre, mais c'est pas prioritaire, en tout cas de moins en moins dans ma tête. La première, c'est la mission d'accompagnement des artistes. On est là pour accompagner les projets, les démarches, les tentatives, les échecs, les réussites, en fait, donner du temps, des moyens à des artistes de réaliser leurs utopies, avec l'idée de se dire que leurs utopies individuelles pourraient nourrir nos utopies collectives. Et donc, on a cette mission de soutenir. Alors, on est dans ce qu'on appelle les arts de la rue. Peut-être qu'il faut qu'on y revienne parce que on a souvent une image un peu restrictive de cette expression. Et nous, souvent, on utilise, alors comme on est un centre national des arts de la rue, on est une institution, on utilise toujours le mot art de la rue. Nous, on aurait plutôt tendance à vouloir utiliser art public que art de la rue. Mais ça, on peut y revenir. Mais en tout cas, on accompagne donc ces formes qui relèvent très souvent du spectacle vivant, mais pas que. Il y a des installations dans le paysage, les arts plastiques sont interrogés, la création sonore est interrogée. En fait, c'est les langages, tous ces langages multiples. Donc, c'est notre première mission, accompagner les artistes. Mais elle serait assez vaine ou assez... si elle n'était pas complétée par une autre mission, c'est d'accompagner le territoire ou comment le territoire nous accompagne dans cette mission-là, comment il y a une espèce de jeu d'accompagnement réciproque. Et c'est peut-être ça le sens d'un projet culturel. Et notamment, et peut-être qu'on y reviendra aussi, mais les droits culturels qui sont enfin apparus dans le paysage, puisque c'est le Parlement, c'est nos députés, nos sénateurs qui ont voté les droits culturels en juillet dernier, ça réinterroge totalement, on s'en rend pas compte, on s'en rend peut-être compte dans 5 ou 10 ans, mais on change de paradigme de la pensée politique pour la culture en France. Et ce travail-là, si on était que sur le champ artistique, serait assez vain, mais on est bien sur le champ culturel, et donc ça élargit la pensée, et donc nos actes.
Dans cet accompagnement, donc dans une de vos missions au niveau de l'accompagnement à la création, il y a plusieurs compagnies avec lesquelles vous travaillez de façon régulière, et qui seront d'ailleurs présentes dans la programmation cette année. Je pense à la compagnie Merci, ou l'Opéra Pagaille.
Oui, on a trois compagnies, proches, complices, qu'on aime bien. Alors, elles ont presque un droit de tirage sur nos moyens de production, c'est-à-dire que dès qu'elles ont une envie artistique, on les connaît depuis longtemps et elles nous ont nourris, on les a accompagnées, elles nous ont accompagnées, donc voilà, il y a une espèce de fidélité dans le temps, et c'est peut-être ça aussi le jeu d'un centre national, c'est d'accompagner certains types d'artistes. Alors aujourd'hui, Opéra Pagaille, c'est évident, c'est une des grandes compagnies, sauf qu'on a accompagné tous leurs projets. comme le groupe Merci ici, qui est, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur lieu, le pavillon Mazar, et un lieu indispensable.
Oui, oui d'ailleurs, ça serait peut-être qu'on peut l'évoquer aussi.
Oui, on peut l'évoquer parce que c'est nécessaire, un lieu comme ça de théâtre contemporain, porté par une compagnie, c'est un lieu indispensable au centre-ville de Toulouse. Ce serait dommage que la ville de Toulouse oublie qu'elle a d'abord une des grandes dames. En fait, c'est un couple, c'est un duo. C'est-à-dire que ce n'est pas un plasticien qui fait le décor d'une dramaturge. C'est Solange Oswald et Joël Feuzel sont des personnes indispensables dans le paysage artistique ici. Et ce lieu qui a accompagné d'abord leur propre histoire, mais d'autres histoires aussi, ou des temps de formation, est un lieu indispensable. Ce serait dommage pour Toulouse de perdre ce lieu-là. Et en tout cas, nous, on les aime beaucoup. Ça fait depuis 1992 qu'on accompagne. Je crois qu'on a vu après tous leurs spectacles et on a coproduit après tous leurs spectacles. Oui, c'est une compagnie indispensable. Donc, Joël Feuzel, Solange Oswald, le groupe Merci, sont des présents réguliers dans la programmation, comme Opéra Pagaille et comme Barreau d'Evelle, compagnie de cirque. Donc, en fait, vous voyez, il y a du théâtre de rue, il y a du théâtre textuel et du cirque contemporain. Et Barreau d'Evelle, c'est pareil. Dès leur sortie de l'École nationale du cirque de Chalon, on a accueilli leur tout premier spectacle. Alors là, on a vraiment tout accueilli cette compagnie qui aujourd'hui est une des plus grandes compagnies de cirque contemporain. Et le dernier spectacle a été présenté, bien sûr, à Pronomade l'automne dernier et tout récemment avec Garonne et l'usine sur Tournefeuille, ce très beau spectacle sur le rapport à l'animal.
Par rapport à cette conception de faire la programmation culturelle avec les habitants. Donc, on rappelle que vous êtes entre le Volvestre et le Comminges. Comment ça se traduit, ça, au fil de l'histoire des Pronomades ?
Alors, on ne fait pas la programmation artistique avec. En tout cas, il y a l'idée de se dire qu'on a un peu abandonné cette posture de penser, qui a été la mienne, mais je pense que c'est encore beaucoup celle d'un grand nombre de mes collègues, comme si on était des missionnaires laïcs qui amenons la parole divine des artistes sur le territoire où il n'y aurait rien, une espèce comme ça d'action qui tomberait d'en haut pour aider ces pauvres gens qui n'auraient rien. Et un grand nombre de lieux ont toujours cette position très condescendante pour les gens, heureusement qu'ils sont là pour nous apporter la culture.
Les grands artistes, les petites gens.
C'est ça, heureusement qu'ils sont là pour nous instruire, parce que sans eux, qu'est-ce qu'on ne saurait pas sans ces lieux culturels. Et l'idée, c'est de se dire, on intervient sur un territoire où il y a des habitants, donc des personnes qui ont leur propre culture, qui ont leur propre identité, et c'est comment... Est-ce qu'un projet culturel, on ne va pas le réduire à simplement un projet de distraction artistique en organisant de belles soirées pour la middle class, c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent, en général c'est à peu près nous qui allons, ça touche à peu près 12%, tout l'effort de la culture en France ne touche que 12%, c'est-à-dire qu'il y a 88% de gens qui en sont exclus, mais c'est tellement évident pour eux que ça les révolte même plus, c'est-à-dire que, voilà, entre nous il y a 12% qui allons au Théâtre Garonne, qui allons aux abattoirs et qui allons à Utopia, et tout le reste n'y va plus, et ça pose des tas d'âmes à peu de monde. Et l'idée, c'est d'arrêter de travailler pour les gens, comme si on avait quelque chose à donner qu'eux n'auraient pas, et de se mettre à travailler avec les gens, ce qui nous met dans une posture très différente de penser l'action culturelle et éventuellement l'accompagnement du champ artistique. Et du coup, par exemple, des choses toutes, on va dire symbolique, mais pas autant, on n'est pas dans le symbole. Le conseil d'administration du Centre national, il n'y a aucune institution. On a besoin des institutions, parce qu'on a besoin toujours en France d'un engagement politique pour la culture, donc on a besoin de l'argent public pour la culture, donc les institutions sont indispensables, la pensée politique pour la culture est indispensable, mais localement, c'est pas eux qui définissent le projet. Et du coup, mon conseil d'administration n'est composé que d'habitants. C'est-à-dire, nos employeurs à l'équipe permanente, ce sont des spectateurs. Mais qui ne sont pas tous spectateurs, parce que certains ne s'intéressent pas. Et en même temps, ce n'est pas très grave qu'on ne s'intéresse pas. Contrairement à ce que je pensais il y a 20 ans ou 25 ans quand j'ai commencé, moi, mon truc, c'était que tout le monde adore le théâtre. Je ne comprenais pas que mon voisin n'aime pas le théâtre. Et aujourd'hui, je me suis fait à l'idée que ce n'était pas plus grave que ça. Moi, je n'aime pas le foot, ça ne remet pas en cause le foot. Voilà. On ne peut ne pas aimer le théâtre, ça ne remet pas en cause le théâtre. Par contre, on ne peut pas ne pas aimer la culture. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer la pensée culturelle qui fait qu'il y a des actions qu'on pense ensemble, qu'on partage ensemble. Un projet culturel, c'est comment les gens se parlent, comment les gens se regardent, et ça se plaide dans le petit. Moi, je plaide pour le petit, la proximité, et comment on vit ensemble. Et qu'un projet culturel, c'est pas un projet artistique. C'est la grande erreur du ministère de la Culture depuis 50 ans, depuis la démocratisation, c'est tout faire pour donner l'accès à l'art. Et bien, c'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est comment on vit ensemble. Et il se trouve que certains artistes pouvaient participer, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. et que aujourd'hui, en tout cas pour nous, à Pronomade, on est bien une institution culturelle, dans le vrai sens culturel, qui accompagne un peu d'artistique, mais surtout on accompagne les habitants du territoire, et surtout les habitants du territoire nous accompagnent.
Une précision, c'est, effectivement,
c'est une précision très importante. Et d'ailleurs, ça me donne envie de rebondir sur la donnerie qui a eu lieu le 1er mai.
Donnerie.
La grande donnerie.
L'affaire des donneries.
Voilà. où justement, cette démarche était complètement illustrée.
Oui, alors c'était une tentative. On se disait, en fait, l'idée, c'était de se dire, avant la saison, elle commence la semaine prochaine, le 11 mai, mais avant, on aimerait retrouver les gens, mais pas pour qu'ils viennent consommer des spectacles, mais c'est indispensable. Moi, j'adore toujours ça. Hein. En m'écoutant, on pourrait dire, il n'en a rien à faire. Non, j'aime ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est comment je peux retrouver les gens qui vivent à côté de chez moi. Par exemple, j'ai fait pendant très longtemps, enfin il y a longtemps, j'avais fait un gros festival qui s'appelait la Saint-Gaudens, qui est un festival sur la folie. Et dans la ville de Saint-Gaudens, où il y a 11 000 habitants, il y avait 10 000 spectateurs. On aurait dû continuer ce festival. On avait un truc qui faisait parler de la ville de Saint-Gaudens. Bon, super, sauf que j'ai jamais travaillé pour la communication de la ville. J'ai toujours pensé travailler pour le projet culturel. 75% des spectateurs de la Saint-Gaudens n'habitaient pas la Haute-Garonne. On venait consommer des beaux spectacles, etc. Aujourd'hui, je me dis, c'est comment... Aujourd'hui, sur Pronomade, 75% habitent le territoire où j'habite moi aussi, où j'ai mon jardin, où mes enfants grandissent. Et donc, comment je partage ce projet avec eux, et non pas pour des gens qui viendraient passer un week-end agréable sur le Piémont pyrénéen. Donc, c'est comment je rencontre les gens qui vivent sur le territoire rural du sud de la Haute-Garonne, comment on vit ensemble et comment on se parle. Et la grande donnerie, c'était un prétexte, non pas pour voir ensemble des beaux spectacles, mais simplement pour se regarder et se parler. Donc l'idée, c'était de se dire, on va faire un anti-vide-grenier. C'est-à-dire que vous savez, les vide-greniers, c'est ce moment où les gens sortent leur merde de leur garage, les trucs qu'ils ont même pas jetés à la déchetterie, et ils essayent d'en faire un bénéfice en essayant de vendre le plus cher, alors que ça vaut plus rien. Et inversement, il y a des gens qui traînent dans les vide-greniers pour acheter, ils espèrent un truc très bien, que l'autre ne serait même pas aperçu que c'est très bien, et pour l'acheter pour peu d'argent. Donc c'est vraiment un problème d'argent qu'il y a entre eux. Et nous, c'était de se dire, au lieu de demander aux gens d'amener leur merde, c'est d'amener le truc essentiel pour eux. Qu'est-ce qui est essentiel pour eux? Qu'est-ce qui a beaucoup de valeur? Et qu'est-ce qu'ils aimeraient offrir? Donc c'était donner, non pas ce qu'on a en trop, c'est donner ce qu'on a d'essentiel. Alors on ne savait pas s'il y aurait 5 personnes, c'est-à-dire mon voisin qui est obligé de me suivre tout le temps, qui me sert de test, et mon voisin et 4 autres personnes, ou si, voilà, ou si on serait 700, 800, bon, on était 150 personnes qui avaient 2 heures et 2 minutes pour se parler, et il y a eu de tout, il y a des gens qui ont parlé de danse, il y a des gens qui ont parlé d'avion à papier, il y a des gens qui ont parlé de... Enfin, c'était des choses matérielles et immatérielles, c'est comment... Qu'est-ce qui est essentiel? On a parlé de lecture, on a parlé avec une dame qui adorait Que Belle Amie de Montpassant. Elle a offert des éditions de Montpassant à plein de monde. Enfin, et d'autres, il y avait une prof de danse qui a dansé le bâtiment des thermes, les yeux bandés avec à chaque fois un spectateur. Et en échange, elle demandait un sourire, c'est tout. Voilà. Et c'est des gens, et la moitié des gens, je ne les connaissais pas. C'est-à-dire, ce n'était pas du public, ce n'était pas des proches de Pronomade, c'est des gens qui sont venus. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, on est dans une société où on a besoin de rendez-vous où le cadre n'est pas aussi serré comme un rendez-vous de spectacle où ça commence à telle heure, ils doivent s'asseoir, ils doivent regarder, ils repartent avec ce qu'on leur donnait. Ils avaient simplement envie de se regarder, de se parler.
Au niveau de la programmation de cette 17e saison, donc en regardant un petit peu tous les spectacles qui sont proposés, je me suis dit, oh là là, ça va titiller nos sens, ça va nous inviter à danser, à chanter, à réfléchir, à rire et à s'émouvoir. Mais il y a aussi de la prise de risque. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette programmation ?
Cette programmation, on retrouve, il y a à peu près 23 compagnies, il y a une soixantaine de rendez-vous parce que certaines jouent plusieurs fois. On joue du ricochet, donc on joue sur 8 territoires communautaires. Et il y a des compagnies qu'on connaît bien parce qu'il y a une espèce de plaisir de retrouver des gens comme on retrouve un cousin ou une vieille tante du Limousin. Et donc on retrouve des gens, voir comment ils ont grandi, comment ils évoluent. Donc on est assez... C'est pas une espèce de fidélité comme ça des compagnies, mais je crois qu'on aime bien voir comment ça évolue, est-ce qu'ils sont fatigués maintenant, est-ce qu'ils ont plus rien à nous dire. Il y a des vieilles compagnies qui ont plus rien à nous dire, c'est pas plus grave que ça, des fois, on a déjà tout dit avant. Et puis après, il y a des prises de risques, parce qu'il y a quand même des gens qui prennent des risques autour de nous, quand même. Socialement, il y a des gens qui prennent, moi je prends pas beaucoup de risques, hein, voilà. Mon risque, quand j'entends dans notre milieu culturel parler de risque, je pense qu'il y a quelques personnes personnes qui traversent à pied l'Europe, et je pense qu'ils ont le mourir, ce qui est un peu exagéré, je trouve, dans notre secteur. Et du coup, on donne des fois à des toutes jeunes compagnies des possibilités de faire des choses. Alors, par exemple, il y a la vaste entreprise de Montpellier, puisque maintenant on est dans la grande région qui va jusqu'à Alès. Donc, on a par exemple proposé à une compagnie qu'on ne connaît pas, la vaste entreprise, de nous faire des visites de groupe. Donc au musée d'Aurignac, puisqu'on est quand même sur la terre où l'Aurignacien a fait ses premiers pas. Et donc il y a un très beau musée qui a ouvert à Aurignac il n'y a pas longtemps. Donc on travaille avec la conservatrice de ce musée qui est très curieuse et inventive. On travaille également à Saint-Bertrand-de-Comminges, donc c'est des lieux du patrimoine. Sauf qu'on va donc faire des visites de groupe, sauf que ce spectacle, ce n'est pas visiter le lieu, mais c'est visiter le groupe qui visite le lieu. Nous, on s'en fout du lieu, en fait. Et on visite le groupe. Donc, les gens s'inscrivent à une visite de groupe, mais du groupe. Voilà. Donc, et ça, c'est un tout jeune. On n'a jamais rien vu de lui, mais la manière dont il est venu nous parler à Marion Vian et à moi du projet, on s'est dit, ah, lui, il nous amuse. Donc, peut-être qu'il va amuser également les gens. Donc, on verra. Alors, peut-être qu'on va tomber sur un futur... futur grand du théâtre de rue, un futur Ferraille, un futur Philippe Nicole ou un futur je sais pas qui. Ou alors, ben, ce sera son premier et dernier spectacle, c'est pas plus grave que ça, donc c'est pas un vrai risque. Et autrement, il y a également une toute jeune compagnie, pareil, qui est venue nous raconter un projet autour du sexe et de la bouffe. Et du coup, ça se passe dans un restaurant, ça sera à la fin de l'année, dans un vrai restaurant, où on écoute la table d'à côté. Alors, je me souviens plus si c'est la rencontre amoureuse ou la séparation amoureuse, mais on parle que de sexe. Et avec tous les parallèles qu'il peut y avoir, c'est la compagnie s'appelle La Sœur de Shakespeare, et ça s'appelle Mange-moi, c'est déjà clair. Et c'est tout un jeu sur le rapport entre sexualité et nourriture, et ça se passe dans un vrai restaurant. Et ce qui nous a plu, c'est de pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire écouter la table d'un côté, mais cette fois, on est autorisé, véritablement. Moi, je passe mon temps, ne m'invitez pas à manger, je passe mon temps à écouter ce qui se passe à côté, en général.
Donc ça aura lieu le jeudi, du jeudi 1er au dimanche 4 décembre à La Brocaire.
Oui, ça c'est très loin. Entre-temps, il y aura eu
pas mal de choses.
Une grosse cinquantaine de rendez-vous sur ce territoire rural, oui.
Donc entre-temps, la programmation commence le 11 mai à 18h avec le groupe Tonne.
Oui, alors ça c'est un spectacle qu'on a vu à Chalon l'année dernière. C'est l'adaptation des textes de Annie Ernaux, donc cet engagement féministe, elle a vécu l'évolution du féminisme au cours du 20e et début du 21e siècle, puisqu'elle vient de sortir un livre, elle est toujours très active dans son engagement. Et donc c'est l'adaptation dans la rue de cette parole. Et on ne sait plus très bien si c'est l'engagement, si cette parole nécessaire, toujours nécessaire à entendre, qui nous a poussé à le programmer. On est sur une forme assez classique de théâtre de rue, très bien faite, mais assez classique. Et je pense que cette parole nécessaire à entendre dans l'espace public nous a paru également aussi importante que l'acte artistique joué. Voilà. Donc cette parole est belle et nécessaire. Et pourtant, ce n'est pas un livre de tout récent. Ça prouve qu'il y a des choses qui sont nécessaires à être répétées.
Un spectacle qui sera aussi accueilli par la saison itinérante d'Artaud.
Oui.
Ici, à Ramonville, il y a des liens, évidemment, entre toutes vos structures.
Oui, bien sûr. Il y a, alors, dans ce qui était Midi-Pyrénées, enfin, avant, il y a le réseau En Rue Libre qu'on a mis en place à l'occasion du Temps des Arts de la Rue, où pour le ministère de la Culture, j'avais une mission d'imaginer autrement la diffusion des arts de la rue en France. Et donc, j'avais poussé, puisque Pronomade, on a été le premier lieu à imaginer des saisons, c'est-à-dire sortir du ghetto ou des uniques temps des festivals. En fait, les arts de la rue n'existaient jusqu'en 1999 que dans le temps des festivals. Il y a des festivals de photos, de danse, de théâtre, de musique, mais la photo, le théâtre existe toute l'année. Nous, on était condamnés à animer les centres-villes comme si c'était une forme que animatoire. Ouais.
Et l'été, quand il fait beau.
Quand il fait beau. Et que
sur 5 jours.
Devant les commerçants, pour animer le centre-ville du coin. Et on avait fait le pari de se dire que si ce secteur artistique, les arts de la rue, existent comme on l'imagine, et comme ils sont, une proposition unique, je sais pas, un spectacle de Cumulus à 21h à tel endroit, se suffit pour nourrir l'imaginaire des gens, et qu'on n'a pas besoin de 3 trucs en off autour et un cabaret autour, voilà. Et du coup, on a mis en place une saison, et En Rue Libre, qui associe à cet nombre de lieux qui avaient déjà des festivals, ont commencé, et Artaud le fait très bien depuis une grosse dizaine d'années, je sais pas où ils en sont, sur une saison des arts de la rue qui commence au mois de mai et qui va jusqu'à leur festival, qui est un temps fort. Hein,
ouais. Et même un peu plus jusqu'au mois de novembre, je crois.
Voilà. Mmh. Et du coup, il y a comme ça, dans ce qui était Midi-Pyrénées, 8 lieux. C'est la Petite Pierre, c'est Verdun-sur-Garonne, c'est un lieu qui est indispensable dans la grande région, c'est Cap de Nac, qui est un des lieux qui a une pensée pour les arts de la rue, je trouve parmi les plus pertinentes dans l'accompagnement et dans le projet culturel. Bref, ça associe des lieux très différents, des histoires très différentes, parce que ça va de l'association de passionnés comme les Ménats dans les Hautes-Pyrénées jusqu'au Centre National, avec les moyens d'un Centre National. Mais malgré nos différences de taille, d'histoire, de reconnaissance, on parle de la même chose et donc on co-réalise des projets, dont la venue de Tone, qui vient à Ramonville, qui ira à Cap de Nac, ouais. Et qui sera donc 2 jours chez nous.
Donc c'est immanquable.
C'est ça. C'est un raton, il faudra choisir. Aucun motif, si vous n'écoutez pas les paroles d'Annie Ernaux. Ouais.
J'avais une question par rapport à l'édito, à un mot de votre édito. J'aimerais savoir en quoi cette année, l'année 2015, donc l'année qui vient de s'écouler, a été une période de transition, puisque c'est ce que vous nous dites dans votre édito. C'était une transition de quoi et vers quoi ?
Ben, c'est une année où il y a eu beaucoup de changements, des changements en termes de... Déjà, on a changé de grand territoire, c'est-à-dire qu'on a un centre national, on a une espèce de... mission de responsabilité d'avoir un œil attentif à l'émergence de ce qui se passe entre territoires. Donc on a une responsabilité qu'avant déjà 8 départements c'était bien, 13 c'est énorme. Je passe beaucoup de temps à aller vers Clermont-l'Hérault. Je savais même pas où c'était sur la carte de France, moi, Clermont-l'Hérault. Les réunions ont lieu à Carcassonne. Carcassonne, je pense que les hôteliers et les restaurants de Carcassonne vont doubler leur chiffre d'affaires parce que tout le monde se réunit à Carcassonne. C'est une espèce de point d'équilibre géographique. Donc, déjà, on a ce changement-là. Autre changement, il y a quand même l'apparition d'un autre centre national en Midi-Pyrénées sur la métropole. Donc, c'est un territoire sur lequel, pour des raisons... on va dire d'équilibre ou de rééquilibrage, j'ai toujours dit que Pronomade, on n'irait pas sur la métropole, on y vient en co-réalisation. Avec l'usine l'année dernière, on a accueilli place Arnaud Bernard, le spectacle de Jeanne Simone, et on l'a fait ensemble. Donc en soutien à, en partenariat, on l'a fait également avec Ramonville, avec Délice Dada l'année dernière. Donc le Centre National intervenait, mais pas seul, parce qu'il y a déjà assez de propositions et que notre histoire est plutôt dans le sud. Donc ça, c'est également un changement. Autre changement pour nous, très important, c'est la fusion annoncée des communautés de communes. Là où il y avait un seul partenaire, maintenant, des fois, ils sont fusionnés en 4 ou 5 sur un seul projet. Donc comment ça va évoluer dans la pensée politique de ces nouveaux territoires ? Et puis pour moi, le changement le plus important, la transition, c'est ce qu'on l'a un peu rapidement évoqué et qui pour moi est vraiment fondamental, c'est l'affirmation par les parlements, par le Parlement, c'est-à-dire avec difficulté quand même par le député, mais alors que la sénatrice Vert, Marie-Christine Blandin, l'avait poussée, réaffirmée lors de la navette parlementaire, heureusement qu'elle a été là pour rappeler l'importance des droits culturels, c'est l'inscription dans la loi NOTRe, dans un simple article, qui dit que la responsabilité culturelle est exercée conjointement par l'État et les collectivités territoriales dans le respect des droits culturels de la Convention de 2005. Et cette petite phrase modifie la pensée totale de la culture et des responsabilités du ministère de la Culture. J'en veux pour preuve qu'il n'y a jamais eu autant de résistance des services du ministère de la Culture durant la navette pour que ce bout de phrase ne passe pas, parce que ça modifie la pensée de l'engagement. C'est quoi une politique publique de la culture ? C'est dans le respect des droits culturels, tel que la déclaration de Fribourg en 2007 l'a définie, et c'est l'application de toute la pensée des droits humanistes, ça vient de la déclaration des droits de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Enfin, la France reconnaît les droits culturels comme étant la base de la pensée des projets politiques pour la culture, et c'est une très grande avancée dans laquelle nous on s'inscrit totalement.
Précisément.
Voilà. Je voulais vous faire écouter un petit extrait d'un spectacle que vous avez dans votre programmation, qu'on pourra découvrir. C'est La Compagnie Watt avec Biclaude.
Avant tout, sois propre. Si tu es propre, tu ne seras pas méchant. Si tu n'es pas méchant, tu seras docteur. Si tu es docteur, tu seras riche. Si tu es riche, tu auras une piscine. Si tu as une piscine, tu seras propre. Le composant principal de l'homme est la part féminine, P, qui entre pour 30% dans la masse du phénomène. À l'instar d'une portion de vache qui rit, Claude estime que sa part féminine occupe un angle de trait dans sa boîte de fromage intime.
Claude, tu es là? Il faut qu'on parle.
Un jour, tu as une révélation. Tu te dis que ta féminine est peut-être quelque chose d'aussi simple qu'un oiseau, une mésange charbonnière. Et voilà, tu déposes une boîte de vache qui rit dans le jardin pour l'attirer jusqu'à toi, car les volatiles, c'est bien connu, sont dingues du fromage fondu.
De retour dans le magazine de Canal Sud et toujours au sujet donc de Pronomade.
Maintenant, on va faire un petit peu, on va voir quels sont les temps forts de cette 17e saison.
Alors les temps forts, quelqu'un vous dirait, mais ils sont tous très forts. Mais non, après il y a quelques rendez-vous un peu emblématiques qui méritent que vous veniez depuis la métropole jusque dans nos villages. Mais non, il y a au moins il y a des choses nouvelles. Par exemple, cette année on a décidé de programmer un programmateur. C'est-à-dire que ça nous fait une soirée où nous on fout rien. On invite un grand programmateur à venir faire ce qu'il fait chez lui. Donc on a donné une soirée, un budget à Claude Guinard qui est le directeur du festival des Tombées de la Nuit à Rennes, grand festival de musique et de théâtre de rue en juillet à Rennes. Et on s'est dit, au lieu de faire 10 bus de gens, donc 500 personnes qui iraient à Rennes, c'est Rennes qui vient à Boussens. Et il va faire une programmation telle qu'il sait les faire. Donc lui, il est plus festif que nous, déjà. Donc ça, vous allez moins vous ennuyer. Et là, on lui donne Boussens, petite ville au centre du département. On lui donne un budget et il programme qui il veut. Donc c'est une totale surprise. Maintenant, nous, on sait qui y veut et ça va vous changer de pronomade, vous allez voir. Voilà.
Les habitants sont prévenus à Boussens, ça va bouger.
On commence à prévenir, oui, parce qu'a priori, quand on connaît Boussens, on se dit qu'il ne va rien se passer. Eh bien non, il va se passer quelque chose, c'est Claude Guinard et sa programmation.
Ce sera quand ?
Et ça s'appelle Reine d'un soir, c'est nul comme titre, mais nous, ça nous fait rire.
Oui,
ouais, c'est ça. Et ça se passera au mois d'octobre, le 8 octobre. Donc ça, c'est une des surprises de la saison. Et une autre surprise, c'est qu'on a la chance ici, sur la Haute-Garonne ou dans la grande région, d'avoir une des compagnies majeures en France des arts de la rue, c'est le FUN, qui fête ses 30 ans. Quand on les croise, on n'a pas l'impression, mais si ça fait 30 ans qu'ils nous proposent leurs très beaux spectacles comme Légumes, comme Le Train Fantôme, comme La Vengeance des Semis, enfin, des spectacles. C'est une histoire vraiment des arts de la rue. Là, combien Ferraille a participé à ce qu'a été le Royal de Luxe et combien on voit ce que le Royal de Luxe sans Ferraille ou sans de la Rosière, ce qu'il reste. Et ça, on voit bien que le Royal de Luxe, c'était quand même la rencontre de trois grands artistes et que le troisième tout seul fait moins de choses quand même passionnantes. Ferraille est toujours là avec sa poésie. C'est très belle poésie, l'attention qu'il porte aux gens qu'on ne voit plus. Je pense que dans l'histoire du FUN, il parle toujours des gens qu'on ne regarde plus, les gens qu'on oublie, qui végètent jusqu'à devenir dégumes, ou les gens, dans le spectacle qui s'appelait les sans-dessous, c'est les gens qui vivent dessous tellement on les oublie. Et c'est un vrai fil conducteur dans son travail, et pour moi c'est un des grands artistes de la région. Et donc on fêtera à Rieux-Volvestre, pendant au moins 3 jours, les 30 ans de cette compagnie, ça sera la fin du mois de septembre. Voilà, c'est parmi les grands rendez-vous. Après, il y a plein de choses. Il y a la nouvelle création des 26 000 couverts. Il y a, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah si, il y a un très beau spectacle qui se passe autour des monuments aux morts. Ça s'appelle Jean Solo pour un monument aux morts. C'est entre la danse buto et le théâtre. Et c'est un hommage à tous les gens, J-E-A-N, qui sont morts pour la France, et notamment les ouvriers qu'on envoyait, c'est plutôt les ouvriers qu'on envoyait durant la Première Guerre mondiale. Et le Jean, c'est également Jean Jaurès, la parole de Jean Jaurès, et ça parle également du militantisme nécessaire, et encore plus nécessaire peut-être aujourd'hui encore. Et c'est un très beau, très court spectacle, et qu'on présente au pied du monument aux morts. Et c'est un très très beau spectacle d'un artiste, Patrice Benedetti, qui vit vers Montpellier, notamment.
Avant de terminer cette interview, j'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui vous anime ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est comment on fait une proposition qui joue et qui n'a de sens qu'à l'endroit où on est. C'est-à-dire que j'aurais du mal à faire... moi, je connais des amis qui font des programmations, ils pourraient faire la même programmation n'importe où. Que je pense qu'un projet culturel, c'est un projet qui répond au contexte. J'adore. Je pense que les arts de la rue, quand on est vraiment dans les arts de la rue, et pas dans du théâtre en plein air ou du théâtre aéré, quand on est vraiment dans ce qu'on espère des arts de la rue, c'est un art totalement contextuel qui n'a de sens qu'à l'endroit où il est et qui réagit. Et donc, c'est cette attention, ce regard, cette attention à l'autre. Et je pense aujourd'hui, plus qu'un projet artistique, c'est vraiment un projet culturel qu'on porte. Et donc, c'est comment on fait humanité. Là, on vit avec les gens, comment on vit avec les autres. Et je pense que c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet. Et donc, on peut trouver toutes les informations. Dans une semaine, il y aura toute sa programmation sur le site internet.
Exact.
Dont l'adresse
est toute simple, c'est www.pronomade, en un seul mot et au pluriel, .org.
Voilà. Et sinon, on peut trouver le programme qui se trouve dans nos nombreux endroits sur Toulouse.
Oui. Voilà. On en trouve partout. Ouais. Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu dans ce studio.